VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Tchad, le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, se rend dimanche à N'Djamena. La première visite d'un chef de gouvernement israélien dans ce pays africain à majorité musulmane avec lequel Israël s'apprête à renouer des relations diplomatiques. C'est ce qu'a fait savoir la primature israélienne ce jeudi. Cette visite qui ne devrait durer qu'une journée fait suite à celle du président tchadien Idriss Déby Itno en Israël en novembre. Benjamin Netanyahou avait alors dit son intention d'annoncer le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Tchad lors d'un prochain voyage à N'Djamena. Les relations diplomatiques israélo-tchadiennes ont été rompues en 1972. Benjamin Netanyahou est engagé dans une campagne active pour nouer ou renouer des liens, y compris en Afrique, avec des pays refusant de reconnaître l'État hébreu ou ayant pris leur distance par rapport à Israël à cause du conflit avec les Palestiniens. En novembre, Benjamin Netanyahou et Idriss Déby Itno avaient refusé de dire si leurs discussions incluaient des accords d'armement. Mais pour faire face à des rébellions dans le nord et l'est du Tchad, l'armée tchadienne et l'Agence nationale de renseignement tchadien se sont équipés de matériel militaire israélien. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaires tchadiennes. En République démocratique du Congo, des centaines de morts dans les massacres de Yumbi, selon un communiqué du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Cet organisme onusien affirme qu'au moins 890 personnes ont été tuées entre le 16 et le 18 décembre dans quatre villages du territoire de Yumbi, dans la province de Maïndombe, à plus de 300 km au nord de Kinshasa, suite à des affrontements entre les communautés Banounou et Batende. Élection RDC maintenant, un certain nombre de leaders africains comptent se réunir ce jeudi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie pour discuter des récentes élections en République démocratique du Congo. Les perspectives avec Abdourahmane Dia.
Cette réunion a été convoquée par le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Organisation panafricaine, pour encore un mois. D'après Eba Kalondo, porte-parole de la Commission de l'Union africaine, cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts menés par les Africains pour aider les acteurs politiques et la population de la RDC à mener à terme le processus électoral. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé sa présence, mais on ignore quels autres dirigeants feront le déplacement. La commission électorale a proclamé l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur du scrutin présidentiel avec 38,57% des voix contre 34,8% pour l'opposant Martin Fayulu qui a saisi la justice le samedi 11 janvier. Monsieur Fayulu parle de coup d'état électoral et affirme avoir remporté le scrutin avec plus de 60% des suffrages. La Cour constitutionnelle a 8 jours pour rendre son verdict. Si cette juridiction confirme les résultats proclamés par la CENI, la prestation de serment du nouveau président aura lieu le 22 janvier.
République centrafricaine, la ville minière de Bakouma dans le sud-est du pays est attaquée par deux groupes armés fin décembre et connue pour ses importants gisements d'uranium a été reprise par les autorités centrafricaines mercredi. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP Pierrette Benguer, préfète du Mbomou, la région où se trouve la cité minière. Madame Benguer a ajouté que le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique FPRC est l'un des principaux groupes armés issus de l'ex-coalition Séléka qui avait pris Bangui en 2013 a quitté Bakouma. La Cour pénale internationale, la CPI, a suspendu mercredi soir la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo après un nouvel appel déposé par le procureur de la CPI au lendemain de son acquittement. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Les juges avaient ordonné hier, plus tôt dans la journée, sa remise en liberté ainsi que celle de son bras droit, Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, après leur acquittement d'accusations de crimes contre l'humanité. Mais selon la CPI, les deux hommes doivent maintenant rester sous la garde de la Cour jusqu'à ce que l'appel du parquet contre leur libération soit entendu. En attendant la décision de la Chambre d'appel sur l'appel du procureur, Messieurs Gbagbo et Blé Goudé resteront sous la garde de la CPI, a indiqué un porte-parole de la Cour basée à La Haye. Dans un premier temps, la Chambre de première instance avait pourtant constaté qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles allant à l'encontre de la mise en liberté de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé suite à leur acquittement mardi. En détention depuis plus de 7 ans, Laurent Gbagbo était jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupables. L'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo avait provoqué des scènes de liesse chez leurs partisans en Côte d'Ivoire, mais aussi un appel des autorités à garder de la compassion pour les victimes et susciter des critiques de la CPI qui subit un nouveau camouflet.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Libye, au moins 5 personnes ont été tuées, 20 autres blessées dans de nouveaux combats entre milices rivales au sud de Tripoli, la capitale, malgré un accord de cessez-le-feu conclu en septembre. Les détails avec Bagassi Koura.
Le ministère libyen de la Santé ne précise pas si des civils figurent parmi les victimes. Selon des témoins, des tirs intermittents ont été entendus hier soir au sud de Tripoli, la capitale, et des routes ont été fermées à la circulation. La mission de l'ONU en Libye a condamné fermement la récente mobilisation militaire, indiquant qu'elle surveillait la situation de près. La MINUL met en garde les parties contre toute violation de l'accord de cessez-le-feu conclu les 4 et 9 septembre 2018 qui compromettrait la stabilité de la capitale et, plus important encore, mettrait en danger la vie des civils et de leurs biens. Entre fin août et début septembre, des combats entre les groupes armés ont fait au moins 117 morts et plus de 400 blessés. Un accord de cessez-le-feu a été conclu sous l'égide de l'ONU. Par ailleurs, l'armée dirigée par Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a annoncé avoir lancé hier une opération militaire pour, selon elle, purger le sud des groupes terroristes et criminels autour de la ville de Seba, à 651 km au sud de Tripoli.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, le président Donald Trump et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, sont engagés dans un bras de fer sur la question du mur à la frontière du Mexique, voulu par le président Trump, alors que le vote du budget se fait attendre depuis 26 jours et qu'une partie de l'administration fédérale est paralysée. Pour une analyse, Nathalie Borge a joint à Ouagadougou le politologue et juriste Siaka Koulibaly.
Le shutdown, effectivement, est arrivé un certain nombre de fois dans l'histoire politique américaine, mais ça a toujours été l'occasion d'éprouver les capacités de la classe politique américaine en termes de négociation, en termes de compromis, en termes d'arrangement au profit de la nation américaine. Ici, on a l'impression qu'une nouvelle formule de politique est en train de se dérouler, où le président, pour lui ici, le budget de son mur n'est pas adopté, fait de la résistance, alors que comparativement, Barack Obama avait eu le même problème avec l'Obamacare. Il avait bien accepté des négociations avec le camp républicain et progressivement, il avait pris des mesures complémentaires pour avoir l'essentiel de son Obamacare. Ici, le président Trump aurait pu également accepter les 2 milliards annuels et puis l'année prochaine ajouter un autre milliard ou 1,5 milliard progressivement. Jusqu'à la fin de son mandat, il aurait peut-être eu son mur. Donc, je vois ici une compréhension de la politique qui est quelque peu divergente de ce qu'on a connu de la capacité de la classe politique américaine.
Cependant, sur le principe lui-même, vous avez au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays dans le monde, le système du 12e provisoire, hein, qui est un budget pour une période déterminée, ça peut être un mois ou plus, en cas de retard du vote. Comment voyez-vous le fait que seulement les États-Unis pratiquent cette formule-là ?
Les États-Unis, étant partis sur principe d'une société libérale dès le début, ont dû éprouver plusieurs situations et ont trouvé les mécanismes qu'il fallait pour dépasser les crises qui survenaient au fur et à mesure. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mécanismes qui sont même pas très connus du grand public américain à plus forte raison des étrangers et qui existent pour compenser tel ou tel blocage du fonctionnement des institutions. Donc c'est pas du tout étonnant que les États-Unis disposent d'un tel mécanisme pour dépasser les situations de crise.
Cependant, on est dans une situation aussi où le président a le droit de veto. Est-ce que, selon vous, le Congrès américain dispose d'autant de pouvoir que cela ?
Moi, je crois que les pouvoirs du Congrès sont suffisamment importants, dans la mesure où il y a beaucoup de mécanismes, comme je l'ai dit, qui existent au profit du président des États-Unis. Il a les executive agreements qui lui permettent de faire passer même certains textes sans le vote du Congrès. Mais la pratique est qu'ils usent très rarement de ces mécanismes-là, parce qu'ils ne sont pas suffisamment démocratiques. Et le risque est qu'à chaque fois que la représentation nationale aura l'occasion, elle va remettre en cause des décisions adoptées par voie de passage en force. Ce qui fait que finalement, les présidents américains ont pris l'habitude de vraiment aller à la négociation lorsqu'il y avait des crises et des blocages qui survenaient.
Siaka Koulibaly à Ouagadougou.